Je suis Béatrice Boigneau et vous écoutez l'épisode 325 de Change ma vie, comment réguler votre système nerveux.
Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Béatrice Boigneau, je suis l'une des coachs certifiées de l'équipe Change ma vie, au sein de laquelle j'ai le privilège d'accompagner les membres de notre programme de coaching et le plaisir de piloter la formation continue de notre équipe de coachs. L'épisode d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité directe de celui de la semaine dernière dans lequel je vous ai proposé la première partie d'une mini-série de 2 épisodes à la rencontre de votre système nerveux autonome. Donc, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 324 qui s'intitulait « Votre système nerveux et vous », je vous invite à faire pause et à aller l'écouter d'abord pour vous familiariser avec certains termes que je vais employer à nouveau aujourd'hui et pour pouvoir ensuite mieux profiter de l'épisode de cette semaine. Alors, si vous avez déjà écouté l'épisode précédent ou si vous n'avez tout simplement pas envie de faire pause, voici en quelques mots ce qu'on a vu ensemble dans l'épisode de la semaine dernière. On a vu que notre système nerveux autonome, c'est notre système de sécurité interne. Il scanne en permanence ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous afin de savoir si on est en sécurité ou en danger. Et selon la réponse qu'il apporte à cette question, est-ce qu'on est en sécurité ou est-ce qu'on est en danger, il va activer différents états de notre système nerveux autonome. Soit la branche dite ventrale, s'il estime qu'on est en sécurité, soit la branche dite sympathique, s'il perçoit une menace contre laquelle il veut et pense pouvoir se défendre, soit la branche dite dorsale, qui nous immobilise s'il perçoit un danger contre lequel il se sent impuissant. Ce mécanisme est ancré dans les millénaires d'histoire de l'évolution de l'espèce humaine, et cet aiguillage qu'opère notre système nerveux autonome, c'est une expérience biologique, ça n'est pas le résultat d'un choix intentionnel de notre part. Ce qu'on a vu aussi, c'est que dans chacun de ces états, notre physiologie, notre vision du monde et notre rapport au monde changent, de manière parfois drastique, dans le but, toujours, de préserver notre survie. Et que notre objectif, c'est de développer notre capacité à naviguer avec souplesse et flexibilité entre ces différents états de notre système nerveux autonome, car ces différents états nous sont tous utiles à partir du moment où ils sont adaptés à la situation que nous vivons dans le présent. L'important, c'est en réalité de ne pas rester bloqué ou enfermé dans l'un de ces états. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que parfois, le logiciel sur la base duquel notre système nerveux autonome évalue les situations a besoin d'être mis à jour et que cette mise à jour peut avoir lieu seulement dans un espace où notre système nerveux autonome se sent en sécurité. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est à quoi est-ce que ça ressemble, justement, concrètement, de développer notre capacité à naviguer avec souplesse et flexibilité entre les différents états de notre système nerveux autonome et quels sont les outils pratiques et concrets qui peuvent nous y aider. Ce que je veux mentionner avant tout, c'est que parfois, et notamment à la suite d'une expérience vécue comme traumatique, notre système nerveux autonome est dans un état d'activation ou de dérégulation tel qu'il nous est en réalité impossible de retrouver par nous-mêmes le chemin de ce que j'appelle notre maison en ventrale. Cette idée d'avoir une maison en ventrale, je l'ai évoquée dans l'épisode de la semaine dernière, c'est une idée qui est en réalité proposée par la thérapeute américaine Deb Dana, c'est écrit D-A-N-A. Cette idée, c'est que nous avons tous et toutes notre maison, notre chez-soi, dans la branche ventrale de notre système nerveux autonome, celle dans laquelle on se sent en sécurité, on se sent connecté à nous, au monde et aux autres, celle dans laquelle aussi on peut restaurer nos ressources, on peut guérir, raisonner, prendre du recul, grandir, changer. Et il arrive parfois que nous ayons des difficultés à retrouver seuls le chemin vers cet ancrage dans un état régulé de notre système nerveux autonome. Il n'y a rien, mais rien du tout, de moralement bien ou mal à ça, c'est simplement le signe que c'est un bon moment pour s'appuyer sur le pouvoir de la co-régulation. La co-régulation, c'est le 3e grand principe de la théorie polyvagale, dont nous avons parlé la semaine dernière, une théorie qui a été développée dans les années 1990 par le psychologue et neuroscientifique américain Stephen Porges, ça s'écrit P-O-R-G-E-S. La semaine dernière, je vous ai parlé du principe de neuroception. C'est cette idée que notre système nerveux autonome détecte les indices de sécurité ou de danger en deçà de notre perception consciente. Et je vous ai parlé aussi du principe de hiérarchie, cette idée qu'il existe une sorte d'échelle des états de notre système nerveux autonome sur laquelle, tout en bas, on est immobilisé par la branche dite dorsale. Au milieu de cette échelle, on est mobilisé par la branche dite sympathique. Et tout en haut de cette échelle, on est ancré dans la branche dite ventrale. On a accès à ce niveau-là à toutes nos fonctions exécutives. Et pour mémoire, on peut se déplacer sur cette échelle, mais on ne peut pas sauter d'étape. On ne peut pas passer de tout en bas à tout en haut ou de tout en haut à tout en bas. Le principe de co-régulation que j'évoquais à l'instant, c'est donc le troisième grand principe de la théorie polyvagale. Et c'est un principe qui part de l'idée que, d'une part, nous sommes biologiquement programmés pour nous connecter à l'autre, et que d'autre part, nos systèmes nerveux sont câblés pour se co-réguler. Lorsqu'on se trouve dans un état dérégulé, c'est-à-dire soit complètement submergé par nos émotions, soit au contraire complètement coupé de nos sensations internes, on n'a pas toujours à ce moment-là les ressources nécessaires pour sortir seul de cet état dérégulé. La co-régulation, à ce moment-là, favorise l'apaisement de notre système nerveux autonome grâce au système nerveux autonome régulé d'une autre personne. Et cette personne de confiance qui nous aide à recréer la sécurité, ça peut être un proche, une proche, un parent, une amie, un coach ou une coach, ou au besoin, un ou une thérapeute spécialisée dans l'accompagnement vers la résolution des traumas. Ce que ça veut dire au passage, c'est qu'on a tous et toutes, dans de nombreuses situations, le super pouvoir, et d'une certaine manière la super responsabilité, d'être ce partenaire de co-régulation pour les personnes qui nous entourent. Ça peut être notre partenaire de vie, notre enfant, un ou une collègue, un ou une cliente, un ou une élève, un ou une patiente, ou même un inconnu, une inconnue qu'on croise dans la rue. Cette remarque mérite bien sûr d'être largement nuancée si la personne en question a besoin d'être accompagnée sur ce chemin par un ou une professionnelle de santé. Et quoi qu'il en soit, Deb Dana parle de la contagiosité de l'état de régulation. En réalité, qu'on en soit conscient, consciente ou non, notre système nerveux autonome reçoit et envoie en permanence des messages aux autres et au monde. C'est une idée qu'il est, je trouve, particulièrement précieuse d'avoir en tête quand on a l'occasion d'interagir avec d'autres êtres humains, que ce soit dans notre cercle familial, amical, professionnel ou autre. Notre mission et notre responsabilité, si on l'accepte, c'est donc d'apprendre à reconnaître ces trois états de notre système nerveux autonome et à respecter le rôle de protection qu'ils jouent pour notre survie, et en même temps d'apprendre aussi, autant pour notre propre bénéfice que pour celui des autres et du monde, à nous auto-réguler, à identifier, à ajuster aux besoins les signaux qu'on émet. Et donc en complément ou à la place de la co-régulation, l'auto-régulation, ça va consister à apaiser nous-mêmes notre système nerveux autonome afin de revenir à un état de sécurité intérieure depuis lequel on sera à nouveau à même d'observer une situation depuis une autre perspective, de mettre en place des comportements adaptés à la fois pour nous et dans la relation à l'autre. Alors apprendre à s'auto-réguler, ça revient en fait à développer notre capacité à activer notre nerf vague de manière intentionnelle pour nous ancrer dans un état de sécurité intérieure et ou pour basculer de manière volontaire, souple, flexible, depuis un état de notre système nerveux à l'autre. Alors le nerf vague, on l'a évoqué la semaine dernière, c'est un acteur majeur de notre système nerveux autonome. Il prend naissance dans le tronc cérébral. Il est connecté directement au cerveau, mais il a aussi des ramifications à travers une grande partie de notre corps, jusque dans notre abdomen et dans nos viscères. C'est une sorte de gigantesque autoroute de l'information, et c'est d'ailleurs le nerf le plus long du corps humain. L'un de ses multiples rôles, c'est d'être une sorte de pédale de frein qui module en permanence notre rythme cardiaque. Selon qu'il est plus ou moins activé, ce frein vagal, qui est donc le mécanisme par lequel notre système nerveux autonome peut rapidement modifier le rythme cardiaque et la pression artérielle en réponse au stress, eh bien ce frein vagal, il gère les transitions entre les différents états de notre système nerveux autonome. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à serrer ou à relâcher ce frein de manière plus intentionnelle. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'on peut prendre le contrôle ou prendre complètement les commandes de notre système nerveux autonome. L'idée avec laquelle on joue ici, c'est simplement de s'entraîner dans l'objectif d'améliorer notre bien-être et notre santé globale, mais aussi de développer notre résilience, c'est-à-dire justement notre capacité à passer avec davantage de souplesse d'un état à l'autre, et pourquoi pas d'élargir notre fenêtre de tolérance, c'est-à-dire cette zone dans laquelle on se sent en capacité de faire face à ce que la vie nous propose. Les méthodes et les pratiques qui peuvent nous aider à nous auto-réguler ont un point commun qui, sans trop de surprise, implique notre corps. Elles impliquent, ces méthodes et ces pratiques, notre corps et en particulier la respiration, le mouvement et le toucher. Et je disais sans trop de surprise parce que on sait aujourd'hui que le flux des informations qui sont échangées via ce fameux nerf vague entre nos organes internes et notre cerveau, eh bien ce flux d'informations, il circule à 80% depuis nos organes internes, donc depuis le corps vers le cerveau, et seulement à 20% dans l'autre sens. Donc c'est dire vraiment la puissance de notre corps, et ça serait bien dommage de se passer de ces 80% d'informations primordiales. Alors, je vous propose de passer en revue quelques pratiques toutes simples que vous pouvez ancrer dans votre quotidien, dans l'objectif de favoriser la régulation de votre système nerveux autonome. Alors, ne vous méprenez pas, ce ne sont pas des baguettes magiques. L'idée, c'est que un système nerveux régulier et résilient, eh bien, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien. C'est un peu comme une pratique sportive. Pour être en capacité de courir un marathon le jour J, eh bien, j'ai besoin de m'être entraînée en amont, d'avoir ancré une pratique régulière de la course, développé ma capacité respiratoire et mon endurance, pris soin de mon sommeil, adapté mon alimentation. J'ai aussi besoin de bien me connaître, d'avoir identifié mes points forts et mes faiblesses, de pouvoir adapter mon rythme et mes efforts pendant la course. Et j'ai besoin, bien sûr, de restaurer mes ressources après la course. Par exemple, de m'hydrater, de pratiquer des étirements, de me masser peut-être, etc. pour reprendre ensuite le cours de ma vie quotidienne. Eh bien, de la même manière, pour être en capacité de m'accompagner au mieux au moment M où mon système nerveux autonome est activé, eh bien, j'ai besoin de m'être entraînée en amont, d'avoir mis en place une pratique régulière d'ancrage en ventral, d'avoir développé ma capacité à serrer ou relâcher mon fameux nerf vague de manière intentionnelle. J'ai besoin aussi de bien me connaître pour identifier les signaux qui activent facilement mon système nerveux autonome et pour reconnaître aussi l'état dans lequel je me trouve maintenant. Et j'ai besoin, bien sûr, de restaurer mes ressources après le moment M où mon système nerveux a été activé. Autrement dit, j'ai besoin de boucler la boucle du stress, de me réentrer en ventral afin de reprendre là aussi le fil de mon quotidien depuis un espace régulier. Alors, voyons voir comment on peut se proposer de faire tout ça. Je voudrais revenir d'abord sur cette idée de boucler la boucle du stress. C'est une idée et une formulation que j'emprunte aux autrices américaines Emily et Amelia Nagoski dans leur livre best-seller Burnout. Nagoski, ça s'écrit N-A-G-O-S-K-I. Et ce best-seller a été traduit en français en 2023 sous le titre « Pourquoi les femmes font des burn-out ?» Le guide pour en finir avec le cycle infernal du stress. Ce qu'elles expliquent de manière très convaincante et en détail, c'est que dans la société occidentale moderne d'aujourd'hui, eh bien la plupart d'entre nous, nous restons coincés dans un cycle permanent de stress. On n'a pas ou plus l'occasion de libérer notre corps de ce jus de stress dont je vous parlais la semaine dernière, comme pouvaient le faire nos ancêtres humains, par exemple, à un stade plus reculé de notre évolution, ou comme peuvent le faire les animaux dans la nature. Alors, bien sûr, il est important de s'attaquer à nos facteurs extérieurs de stress et, quand c'est possible, de régler les choses qui doivent l'être ou qui peuvent l'être pour minimiser ces facteurs extérieurs de stress. Mais c'est tout aussi essentiel de boucler aussi souvent que possible cette fameuse boucle du stress à un niveau physique, autrement dit dans notre corps. Et pour faire ça, Emily et Amelia Nagoski proposent différentes stratégies qui, vous allez voir, sont globalement d'une simplicité assez confondante. Et pour autant, bien sûr, si ces stratégies vous semblent inaccessibles pour l'instant, ou s'il vous semble insurmontable de les mettre en place seul là où vous en êtes aujourd'hui, eh bien c'est parfaitement légitime et un beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous faire accompagner sur ce chemin par quelqu'un dont c'est le métier. Première stratégie. La première stratégie est de loin la plus efficace, selon les sœurs Nagoski, c'est l'activité physique. Courir, marcher, sauter, danser, faire du trampoline, faire des étirements, ou littéralement secouer votre corps dans tous les sens. Peu importe ce que vous préférez et ce que vous êtes en mesure de faire aussi, bien sûr, dans le respect de votre corps et de vos capacités physiques, avoir une activité physique quotidienne, c'est une manière d'évacuer ce jus de stress coincé dans votre corps et de signaler à votre système nerveux autonome que vous êtes en sécurité. C'est d'ailleurs ce que font les animaux dans la nature. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion d'observer ça, je vous encourage vivement à taper dans un moteur de recherche les termes Impala, I-M-P-A-L-A, Lion, donc lion en français, L-I-O-N, et Freeze, F-R-2-E-Z-E. Freeze en anglais, ça signifie geler. Et c'est le terme qu'utilisent nos amis anglophones pour décrire l'état de sidération ou d'immobilisation qui survient quand, vous vous rappelez, c'est la branche dorsale du système nerveux autonome qui est activée. Donc avec ces mots-clés dans un moteur de recherche, vous allez trouver assez facilement une vidéo qui vous montre une antilope. Et cette antilope, quand elle ne peut ni combattre la lionne ni lui échapper, eh bien, elle va faire la morte au point que la lionne finit par s'éloigner. Et ce qu'on observe ensuite, et que je trouve absolument fascinant, au bout d'un certain temps, en l'absence de la lionne, c'est que le corps de l'antilope se remet lentement à bouger. On voit d'abord son abdomen qui se gonfle, pour respirer avec de plus en plus d'ampleur, et puis on voit tout son corps se mettre à trembler, assez violemment, pendant plusieurs minutes. Et quand elle a fini de trembler, autrement dit, quand elle a fini d'évacuer de son corps tout ce jus de stress, toute cette énergie qu'elle a mobilisée pour faire face à ce danger mortel, eh bien, elle se lève, et elle s'en va. Elle a bouclé la boucle du stress et elle peut reprendre le cours de son existence. Eh bien, ce que cette antilope, comme d'autres mammifères d'ailleurs, fait de manière instinctive, nous, les humains, on a désappris à le faire au fil de notre évolution et sous le poids des conventions sociales. Et donc, bouger notre corps, c'est vraiment la première stratégie que proposent Émilie et Amélia Nagoski pour boucler la boucle du stress. À titre personnel, j'aime beaucoup, surtout en mode SOS, l'outil que je m'amuse à appeler le « secouez-moi, secouez-moi » en clin d'œil au slogan publicitaire d'une marque de soda dans les années 70. Alors à quoi ça peut ressembler ce « secouez-moi, secouez-moi » ? Eh bien, secouer son corps, donc secouer un bras, puis secouer les deux, puis une jambe, puis l'autre, voilà, tout ce qu'on peut secouer en même temps, c'est une façon vraiment rapide et vraiment efficace de chasser le stress accumulé ou de relâcher la tension musculaire. Et selon les circonstances, bien sûr, ça ne sera pas le plus adapté, à moins que vous ayez la possibilité de vous isoler dans une pièce pour pouvoir vous secouer tranquillement dans tous les sens. Mais par exemple, je trouve qu'à la maison, à l'occasion d'une interaction difficile avec mes enfants, quand mon système nerveux vient de passer de 0 à 100 en moins d'une seconde, eh bien, c'est un outil que je trouve très utile, parce que non seulement ça m'aide à faire redescendre la vapeur pour moi, mais généralement, en plus, mes enfants trouvent ça tellement ridicule que ça peut finir par nous faire tous rire. Et le rire, on va le voir, ça nous aide aussi à réguler. Voilà pour la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est de respirer. Des respirations amples et lentes, qui prolongent en particulier l'expiration, eh bien, ça contribue à apaiser le système nerveux autonome. On peut par exemple se proposer d'inspirer en comptant jusqu'à 5, puis retenir son souffle en comptant à nouveau jusqu'à 5, avant d'expirer en comptant cette fois-ci jusqu'à 10, et retenir ensuite son souffle en comptant à nouveau jusqu'à 5. Donc 5, 5, 10, 5. Si c'est possible pour vous au moment où vous écoutez cet épisode, je vous propose de tester tout de suite, appuyez sur pause, faites ce cycle de respiration 3 fois de suite et observez comment vous vous sentez. En complément de cette technique de respiration qui est proposée par les sœurs Nagoski, on peut évoquer aussi la cohérence cardiaque qui aide à réguler le stress et l'anxiété et qui a de très nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et émotionnelle. Pratiquer la cohérence cardiaque, c'est hyper simple. Il suffit de s'asseoir confortablement, le dos droit pour dégager la cage thoracique et respirer le plus librement possible, puis de faire consciemment 6 respirations par minute pendant 5 minutes en adoptant une respiration lente, ample, régulière et surtout une respiration abdominale. Alors, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans des calculs mathématiques complexes tout en respirant, eh bien, il existe des tas d'applications, des supports audio, vidéo, accessibles sur Internet. Beaucoup sont gratuits et ils peuvent vous guider dans la mise en place de ce rythme respiratoire. Souvent, on entend qu'il est recommandé de pratiquer cette technique 3 fois par jour, mais vous savez quoi ? Eh bien, une fois dans la journée, c'est déjà infiniment mieux que rien du tout. Autre outil en lien avec la respiration que je trouve assez génial dans sa puissance et dans sa simplicité, c'est le soupir physiologique. Le docteur Andrew Huberman, ça s'écrit H-U-B-E-R-M-A-N, donc c'est un neuroscientifique américain, chercheur auprès de l'université de Stanford, et bien il a montré que cette technique, ce soupir physiologique, permet, je vais citer une traduction de ses propos, de détourner la manière dont notre corps répond aux facteurs de stress et de désactiver instantanément la sensation de panique et de tension qui accompagne le stress. Je vous le disais, ça paraît assez génial. Et le soupir physiologique, c'est tout simple aussi. Il suffit de prendre une double inspiration rapide par le nez et puis d'expirer lentement et longuement par la bouche. Idéalement avec une expiration 3 fois plus longue que l'inspiration. Et pour un résultat optimal, on peut réaliser cet exercice 3 à 4 fois d'affilée. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie là aussi à votre moteur de recherche préféré. Andrew Huberman publie de très nombreux contenus de vulgarisation et donc vous trouverez facilement une vidéo qui sera a priori en anglais, dans laquelle il explique en détail les mécanismes à l'œuvre dans le soupir physiologique. C'est une technique que j'ai découverte assez récemment et que j'utilise surtout, elle aussi, en mode SOS, elle aussi souvent dans le domaine de ma parentalité, à des moments où mon système nerveux est activé par des interactions que je trouve assez difficiles avec l'un de mes fils ou avec les deux. Et ce que j'adore, c'est que là aussi, c'est mobilisable hyper facilement et instantanément. Le vrai challenge, au fond, c'est de prendre l'habitude de mobiliser cette technique pour que ça devienne un réflexe. Et la cerise sur le gâteau, à mes yeux, là aussi, c'est que ça me permet non seulement de m'auto-réguler, mais aussi, ce qui est vraiment, vraiment important pour moi en tant que maman, de montrer en direct à mes enfants une technique d'auto-régulation. Alors, pour les parents d'entre vous, parmi vous, est-ce que mes enfants vont s'en saisir tout de suite avec gratitude et enthousiasme? A priori, non. Pour l'instant, j'ai plutôt droit à des commentaires de l'ordre de « Oh, maman, arrête avec ta respiration et tes trucs de coaching ». Mais voilà, c'est une graine que je plante qui m'aide, quoi qu'il en soit, à cultiver mon propre bien-être et qu'ils cultiveront peut-être un jour à leur tour, s'ils le souhaitent. Alors, revenons aux stratégies proposées par les sœurs Nagoski. La troisième stratégie pour boucler la boucle du stress et pour apaiser son système nerveux autonome, eh bien, c'est de rire. Pas un petit rire poli tout en retenue, non. Un vrai rire profond qui vient du ventre, qui nous secoue et qu'on ne peut pas retenir. Comment est-ce que vous pouvez créer ça pour vous? Je vous invite vraiment à creuser cette question. Et si vous avez envie de partager vos idées ou vos fous rires avec nous, envoyez-nous un mail à l'adresse hello@changemavie.com. On se réjouit déjà à l'idée de vous lire. Stratégie numéro 4. La stratégie numéro 4, c'est d'avoir des interactions sociales positives. Là aussi, ça peut être tout simple. Dire bonjour à la personne qui vient d'entrer dans l'ascenseur avec vous, sourire à quelqu'un que vous croisez dans la rue, faire un compliment à l'employé du magasin qui s'occupe de vous. Vous serez souvent surpris ou surprise de l'effet papillon positif que vous déclenchez en osant faire ce premier pas. Et du même coup, vous envoyez à votre système nerveux autonome le signal ô combien rassurant pour lui que le monde et les humains ne sont pas aussi intégralement horribles que les réseaux sociaux ou les chaînes d'information veulent nous le faire croire. Cinquième stratégie. La cinquième stratégie, c'est d'échanger des marques d'affection. Avec un animal de compagnie, avec un ou une amie, une personne de confiance en tout cas, que vous aimez et respectez, et qui vous aime et qui vous respecte. Ça n'a pas besoin d'être une marque physique d'affection, même si bien sûr, serrer dans vos bras une personne ou un animal que vous aimez, c'est comme un bain de jouvence pour votre système nerveux autonome. Selon les termes d'un autre neuroscientifique qui s'appelle Francis McGlone, McGlone, qui lui travaille auprès de l'université de Liverpool, eh bien, le toucher doux, selon ces termes, allume des zones du cerveau en lien avec le système de récompense. Il y a à ce moment-là un relâchement d'ocytocine, une hormone qui joue un rôle fondamental dans notre attitude sociale. Ça a aussi des conséquences sur le niveau de dopamine, qui fait partie du système de récompense. Et ça permet aussi de relâcher de la sérotonine en lien avec notre bien-être et notre bonheur. Et enfin, ça permet d'avoir un impact sur le stress puisque ça peut permettre de faire baisser notre rythme cardiaque. Et en absence d'un humain ou d'un animal, toujours consentant, bien sûr, que vous puissiez câliner, eh bien, je vous encourage sans hésiter à pratiquer l'auto-câlin dans le respect de ce qui est accessible pour vous. Se serrer soi-même dans les bras. Par exemple, en pressant votre main droite sur votre triceps gauche ou sur l'arrière de votre épaule gauche et votre main gauche de l'autre côté sur votre triceps droit ou sur l'arrière de votre épaule droite, si ça vous est possible. Donc voilà, se serrer soi-même dans les bras, se masser, tout ça, ça stimule les récepteurs de l'épiderme qui sont connectés aux nerfs vagues. N'hésitez pas, par exemple, à vous automasser autour des oreilles sur le passage du nerf vague. On peut faire ça soit en utilisant simultanément l'index pour masser l'arrière de l'oreille et le majeur pour masser l'avant de l'oreille, une oreille à la fois ou les deux en même temps, c'est vous qui choisissez. On peut masser aussi, par exemple, avec son index, le point auriculaire dans le pavillon de l'oreille. On peut masser aussi le lobe de l'oreille entre le pouce et l'index. Bien sûr, tout ça, ça ne doit jamais faire mal. Et je vous invite à être attentif ou attentive à une envie que vous aurez peut-être d'avaler votre salive, de bâiller ou de soupirer. Et ça, c'est un très bon signe. C'est votre système nerveux autonome qui boucle une boucle de stress. Et c'est exactement ça qu'on a envie de faire. Alors, la sixième stratégie maintenant, c'est de pleurer. Clotilde vous en a parlé dans l'épisode 127 qui avait ce titre tout simplement, pleurer. Alors certes, pleurer, ça ne vous aide pas à résoudre le problème que vous rencontrez. Mais en revanche, c'est une excellente manière de boucler la boucle de stress dont on fait l'expérience en lien avec notre problème. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être observé qu'en pleurant, on a tendance, à travers nos sanglots, à faire naturellement les fameux soupirs physiologiques dont le docteur Andrew Huberman vante tant les mérites pour apaiser notre système nerveux autonome. Alors là aussi, je vous invite à explorer comment vous pouvez créer ça pour vous. Quel est le film ou le livre qui vous fait pleurer à tous les coups? Où et quand est-ce que vous pouvez vous faire le cadeau d'ouvrir les vannes en toute sécurité? Et la septième et la dernière stratégie que les sœurs Nagoski proposent, c'est l'expression créative de soi. Faire de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la couture, de la musique, du théâtre, des films, de la photo, chanter, raconter des histoires sous quelque forme que ce soit, eh bien toutes ces formes d'expression artistique peuvent créer un contexte favorable à l'expression de nos émotions et à l'apaisement de notre système nerveux autonome. En complément, je vous propose d'ajouter à cette liste trois autres stratégies. D'abord, le tapping. Le tapping, ou EFT, pour Emotional Freedom Technique en anglais, c'est une technique de libération émotionnelle dont Clotilde parle dans l'épisode 124. C'est une technique toute simple, elle aussi, et très puissante, qui fonctionne par le biais de tapotements qu'on effectue soi-même du bout des doigts, d'où le terme de tapping, sur différents points méridiens de notre corps. Elle permet d'apporter un soulagement rapide face aux difficultés émotionnelles qu'on rencontre, et on peut tout à fait en faire une pratique quotidienne de régulation de notre système nerveux autonome. Les membres avancés de notre programme de coaching ont la chance de bénéficier chaque mois d'une session d'EFT thématisée proposée par une thérapeute que nous faisons intervenir au sein du programme. Ensuite, autre technique complémentaire, la connexion à la nature. Les études montrent que ne serait-ce que 5 minutes de connexion visuelle à la nature, avant d'aborder par exemple une situation qui nous challenge ou qui active notre système nerveux autonome, eh bien ça peut nous aider à nous réancrer en ventral, autrement dit à réguler notre système nerveux autonome bien plus facilement après cet événement ou cette situation. Et ce que j'ai découvert dans le cadre de la formation que j'ai suivie auprès de l'Institut Polyvagal, le Polyvagal Institute, et que je trouve absolument fascinant, c'est que cet effet régulateur de la nature opère aussi bien si je suis au beau milieu de la nature que si j'observe la nature par la fenêtre ou même via un écran. Alors, je ne suis pas en train de vous suggérer de rester collé à votre téléphone ou à votre ordinateur, mais le fait est que tout le monde n'a pas, en bas de chez soi ou en regardant par sa fenêtre, des arbres, des fleurs, des montagnes, des oiseaux qui chantent, la forêt, un champ, l'océan, la mer, etc. En tout cas, tout le monde n'a pas sous la main un morceau de nature. Et donc, en revanche, je suis prête à parier que si vous m'écoutez aujourd'hui, vous avez certainement tout aussi bien la possibilité de vous immerger visuellement dans un petit peu ou beaucoup de nature via l'un de vos écrans. Ou peut-être que vous avez l'envie et la possibilité d'ajouter une plante ou une image de nature à votre bureau ou à la décoration intérieure de votre lieu d'habitation. Et pour finir, une dernière stratégie que je trouve absolument délicieuse, c'est la stratégie qui consiste à vous émerveiller. Alors vous allez me dire « Merci bien Béatrice, mais c'est plus facile à dire qu'à faire ». Voilà comment la thérapeute Deb Dana explique ce concept dans la formation qu'elle propose au sein de l'Institut Polyvagal. Ce qu'elle dit, c'est que s'émerveiller, c'est rester bouche bée, subjugué, ébahi, c'est faire l'expérience de quelque chose qui nous réjouit, qui nous fascine tellement que d'une certaine manière, ça nous emporte, ça nous dépasse, ça nous élève, ça nous met en lien avec quelque chose de plus grand que nous. Et là aussi, les études montrent qu'en plus d'être agréable à ressentir, eh bien ça fait un bien fou à notre système nerveux autonome et à notre bien-être physique et psychique en général. Donc l'idée, c'est de favoriser les expériences qui nous permettent de créer ça pour nous, et en particulier, on y revient, le contact avec la nature, les arts sous toutes leurs formes et aussi les actes vertueux. J'ai découvert à l'occasion de la formation qu'il existait même des vidéos, encore une fois, vous pouvez demander à votre moteur de recherche préféré, des vidéos qui montrent différents actes vertueux effectués par différentes personnes lambda dans leur quotidien et filmés soit par d'autres individus, soit par des caméras de surveillance. Mon invitation pour vous, c'est de vous mettre intentionnellement à la recherche de ce qui vous permet de créer cet émerveillement pour vous. Deb Dana nous propose par exemple de poser une intention d'émerveillement au début de chaque journée et de tenir même un journal d'émerveillement. L'idée, c'est qu'une fois qu'on met notre cerveau en mode recherche d'émerveillement, eh bien il va trouver. Et une fois qu'on a décidé de s'ouvrir à l'émerveillement, une fois qu'on commence à identifier ce qui crée l'émerveillement pour nous, eh bien, on va pouvoir se proposer bien plus facilement de répliquer ça et de créer davantage de ça pour nous dans notre quotidien. À titre d'exemple, j'ai repéré tout à l'heure en sortant d'un rendez-vous, dans le milieu très urbain dans lequel j'évolue au quotidien, un cerisier du Japon dont les fleurs commencent à peine à fleurir. En réalité, elles sont encore toutes fermées, mais elles sont là, et je me suis sentie sourire, à la fois du plaisir de découvrir cet arbre, mais aussi de l'anticipation du ravissement que je vais ressentir dans les jours et les semaines qui viennent en voyant ces fleurs que je trouve tellement belles s'épanouir de plus en plus. Et vous l'entendez peut-être, mais rien qu'en repensant à cette scène et à cet arbre, le sourire s'est dessiné tout seul sur mon visage. On vient donc d'évoquer ensemble 10 techniques que vous pouvez mobiliser pour réguler votre système nerveux autonome, à la fois pour boucler la boucle du stress et pour vous aider à retrouver le chemin de votre maison à vous en ventrale, dans cette branche de votre système nerveux autonome dans laquelle vous vous sentez en sécurité, connecté, dans laquelle vous avez accès à vos fonctions exécutives, dans laquelle vous pouvez restaurer vos ressources physiques et psychiques. Je vous rappelle ces 10 techniques, c'est donc bouger, respirer, rire, avoir des interactions sociales positives, donner ou recevoir des marques d'affection, pleurer, s'exprimer créativement, pratiquer le tapping, se mettre au contact de la nature et s'émerveiller. Mon invitation pour vous, c'est de choisir ce que vous avez envie de mettre en pratique et d'expérimenter pour trouver ce qui vous convient à vous dans cette phase-là de votre vie. Pour illustrer ce à quoi ça peut ressembler concrètement dans la vie de tous les jours, je vous emmène quelques instants dans mon quotidien. Le matin, en ce moment, je démarre ma journée en allant m'asseoir un peu avant que mes enfants se lèvent, dans la pénombre et le silence du salon, et je fais pour commencer une ou deux rondes d'EFT. Pas nécessairement pour accueillir une émotion particulière, pas nécessairement dans les règles de l'art non plus, simplement pour faire circuler l'énergie et les émotions et voir ce qui se présente. Ce que j'observe, c'est que, peut-être parce que mon corps est maintenant habitué à ce rituel, je ne sais pas, dès les premiers tapotements, ou au plus tard, au cours de la première ronde, je me mets à bâiller, et j'y vois un signe que mon système nerveux autonome boucle une boucle et me remercie. Après ma ronde de EFT, je pratique quelques mouvements d'automassage pour stimuler mon nerf vague, notamment celui qui consiste à masser l'avant et l'arrière de l'oreille, puis le pavillon de l'oreille et le lobe de l'oreille, jusqu'à ce qu'assez rapidement, je me mette à nouveau à bâiller. Après quoi, j'ouvre une application qui me guide pour 5 minutes de cohérence cardiaque, puis une autre application qui me propose un entraînement sportif de 7 minutes, plutôt bref et intense, qui me permet à la fois de faire monter mon rythme cardiaque et de mobiliser mes différents groupes musculaires. Et je termine cette séquence par des mouvements d'étirement. Souvent, pendant que je fais la cohérence cardiaque, mon plus jeune fils vient s'asseoir sur mes genoux pour faire un gros câlin avant d'aller prendre son petit déjeuner. Et s'il ne vient pas, ou s'il arrive alors que j'ai déjà commencé mon sport par exemple, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai terminé, je vais à la cuisine pour faire un câlin à mes deux fils qui sont en train de prendre leur petit déjeuner. Après m'être assurée toujours qu'ils sont volontaires, qu'ils sont prêts à recevoir ce câlin ou ces bisous à ce stade de leur journée, parce que le consentement, c'est important. Tout ça, ça me prend en tout et pour tout une quinzaine de minutes. Et vous voyez que dans ces 15 minutes, il y a du mouvement, de la respiration, de l'affection donnée ou reçue, de l'automassage. En fonction de la météo ou de la période de l'année, je vais peut-être y ajouter une connexion à la nature et créer l'émerveillement pour moi en prenant un instant pour regarder la couleur du ciel ou le lever du soleil depuis ma fenêtre. Les étapes de ce rituel ont évolué au fil des années, il n'y a pas de formule magique et l'idée c'est vraiment de trouver la formule qui vous convient à vous, à votre système nerveux autonome unique dans cette phase unique de votre vie. Et cette formule d'ailleurs, elle n'a peut-être rien à voir avec un rituel du matin. Néanmoins, si l'idée du rituel du matin ou du rituel du soir vous tente, je vous renvoie vers l'épisode 242 qui s'intitule tout simplement « Rituel du matin, rituel du soir » pour y trouver de l'inspiration. Ce qui est sûr, me concernant en tout cas, c'est que toutes mes journées commencent par une variante de ce temps de reconnexion à moi et à mon corps qui me permet de faire une sorte de reset de mon système nerveux autonome. Je fais par ailleurs régulièrement du vélo et je voudrais justement partager avec vous une prise de conscience assez récente qui illustre l'idée que ce qui nous convient, ça évolue et qui illustre aussi l'idée que toutes les manières de bouger notre corps ne contribuent pas nécessairement à apaiser notre système nerveux autonome. Il y a quelques semaines, à l'occasion d'une vague de froid et d'un épisode neigeux, j'ai cessé d'accompagner mes enfants à l'école en vélo et j'ai remplacé ce moyen de transport en partie par de la marche à pied. Et ce dont je me suis rendu compte à cette occasion, c'est que faire du vélo, En tout cas, dans les conditions dans lesquelles je fais du vélo, c'est-à-dire en milieu urbain, en partageant la route avec les voitures, en l'absence de pistes cyclables, avec mes deux fils derrière moi sur le vélo qui est un vélo allongé, ça me permet certes de bouger mon corps, de faire monter mon rythme cardiaque, de me muscler, parce que le trajet comporte une côte assez raide et qu'à nos trois plus le vélo, ça fait quand même un sacré poids à déplacer. Mais au-delà de ça, à bien y regarder, c'est une activité physique qui ne contribue pas du tout à apaiser mon système nerveux, bien au contraire. L'état d'hypervigilance dans lequel je suis lorsque je fais du vélo, et ça n'est peut-être pas du tout votre cas, mais en tout cas, me concernant, c'est ce que j'observe, eh bien, cet état d'hypervigilance, ça crée plutôt une boucle de stress pour moi qui draine mon énergie dès le matin. Alors que par contraste, les 20 à 30 minutes de marche dynamique que j'ai faites pour rentrer à pied de l'école, via un chemin qui est très peu fréquenté par les voitures, avec la possibilité de laisser libre cours à mes pensées, d'écouter un podcast ou un livre audio, de profiter des éléments de nature autour de moi, ou encore de répondre au bonjour enthousiaste de cette dame qui m'a salué plusieurs jours de suite en me croisant, et bien tout ça, ça m'a rempli d'une énergie puissante, joyeuse et apaisée. Autre exemple, j'aime beaucoup mes 7 minutes de sport matinal qui me permettent depuis des années, d'une manière hyper simple et efficace, de travailler mon souffle et mes muscles. Et puis maintenant, ça fait d'une certaine façon vraiment partie de mon identité. Je suis devenue quelqu'un qui commence sa journée comme ça, quoi qu'il se passe et où que je sois. Et en même temps, je viens de découvrir, alors avec des guillemets, parce qu'évidemment, je savais bien sûr que ça existait avant, mais je viens de découvrir le yoga et je suis enthousiasmée par les bienfaits physiques et psychiques que je ressens grâce à cette pratique à laquelle j'ai fait, du coup, en quelques semaines, une place presque quotidienne dans ma vie. Je ressens une différence notable entre ces deux pratiques, notamment en termes de présence à mon corps et de profondeur de la respiration. Autrement dit, en termes d'ancrage dans ma maison en ventrale. Et je me dis que je veux plus de ça dans ma vie. Donc mon invitation pour vous, c'est vraiment d'expérimenter parce que votre système nerveux autonome est unique et parce que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir ressentir dans votre corps ce qui vous convient à vous et ce qui vous fait du bien à vous. Et parce que aussi, on l'a vu, ce qui vous convient, eh bien ça évolue. Alors, pour résumer, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une série de pratiques, de techniques, d'outils que vous pouvez vous proposer d'incorporer dans votre quotidien comme une forme de rituel préventif d'entretien de votre système nerveux autonome ou bien utiliser en mode SOS dans les moments où votre système nerveux autonome est particulièrement activé. Bien sûr, ce sera toujours plus facile de mobiliser telle ou telle technique en mode SOS si cette technique vous est déjà familière. Ça serait beaucoup vous demander, et en réalité, ça serait beaucoup trop vous demander, que d'espérer être en capacité de passer outre la réaction biologique de votre système nerveux autonome d'un claquement de doigts juste parce que vous avez écouté cet épisode aujourd'hui ou juste parce que vous avez testé une pratique aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à vous demander quel est l'outil ou la pratique que vous avez envie d'expérimenter, pourquoi pas dès aujourd'hui. Et surtout, si parmi ces pratiques, certaines choses ne vous conviennent pas ou ne vous font pas du bien, et bien surtout, ne le faites pas. On est bien trop souvent conditionné à penser qu'on doit faire les choses avec une forme d'acharnement jusqu'à ce que ça fonctionne, entre guillemets, parce que sinon, ça voudrait dire des tas de choses négatives sur nous. Et c'est probablement en partie comme ça qu'on empire peu à peu l'état de notre système nerveux autonome, qu'on ignore le fait qu'on est en stress et qu'on arrête d'écouter notre corps. L'idée de ces deux épisodes, c'est vraiment justement de vous encourager, de vous inviter à trouver ou à retrouver cette connexion avec votre corps, à votre rythme, en vous faisant du bien et en vous écoutant. Vous êtes le seul, vous êtes la seule experte de votre corps. Et si vous avez depuis longtemps coupé la communication avec lui et que vous ne savez pas trop ce qui s'y passe, eh bien sachez que vous n'êtes vraiment pas le seul, que vous n'êtes vraiment pas la seule et bienvenue en terre inconnue. Le meilleur moment pour commencer, c'est peut-être bien maintenant. Et si votre corps vous dit que non, en fait, ça n'est pas le bon moment pour vous ou qu'il ne veut pas faire ça tout seul, eh bien écoutez-le et donnez-vous le soutien dont vous avez besoin. J'espère de tout cœur vous avoir apporté des éclairages utiles et vous avoir donné envie d'expérimenter une ou plusieurs de ces techniques. Donner envie aussi d'avancer vers un mode de vie plus favorable à la régulation de votre système nerveux autonome et à votre bien-être général. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode ou à l'intérieur de notre programme de coaching.
Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.